ajuda!
Il fallait une prestation comme celle-ci pour oublier ce qui s'était passé en semaine en Ligue des Champions. Le Real Madrid s'est imposé 4-0 contre le Celta de Vigo et garde l'écart entre lui et ses poursuivants que sont Girona et Barcelone. On va reparler de tout ça tranquillement, en tête-à-tête, avec Hichem de Real French Madrid. Salut Hichem.
Salut, salut Gilles, j'espère que tous les auditeurs vont très bien. Bah, on peut caler très bien après 4-0, je pense.
Ah, tu m'étonnes, parce que c'est vrai que là, on est, après un match où il y a eu beaucoup de buts.
Ah.
J'allais dire, ce qui change, on va dire, des derniers matchs, hein, des dernières prestations où le Real Madrid était un petit peu poussif, et c'est encore le cas en Ligue des Champions cette semaine. Contre le Celta, le RC Celta Vigo.
Oui.
C'est bien de faire tourner parce qu'il y a eu quand même de la rotation et d'avoir, on va dire, un festival de buts qui est arrivé en fin de deuxième période.
Ouais, c'est. De toute façon, quand tu affrontes le Celta Vigo en Liga, ça peut être une équipe qui est compliquée à jouer. Oui, on sait que depuis quelques années, c'est pas le Celta Vigo qu'on aurait pu connaître. En tout cas, un des meilleurs Celta Vigo qu'on ait pu connaître, mais ça en demeure pas moins une rencontre intéressante en Liga,
bien sûr.
Très disputée. Et en l'occurrence, il fallait, quoi qu'il en soit, s'imposer, déjà pour renouer avec la victoire, et en plus de ça, pour continuer à marquer son territoire et à prendre ses distances, comme tu disais, avec nos principaux concurrents. Donc, Real Madrid, très sérieux. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Gilles, mais moi,
ah,
je trouvais que l'équipe était, a pris le match comme il le fallait. Est-ce que c'est le Celta qui n'était pas au niveau? Je ne pense pas, honnêtement. Je pense que le Real Madrid a su considérer la rencontre et a augmenté son niveau de jeu pour cette journée de Liga au Bernabéu. Donc, 4 buts. On n'a pas vu le Celta Vigo en réalité, et si je reprends quelques statistiques, je crois qu'en première période il y avait plus de 70% de possession de balle pour le Real Madrid. On les a littéralement éteints, et le score reflète la rencontre pour le coup.
Ah ben clairement, c'est vrai que ça reflète la rencontre, puisqu'on n'a pas vu un Celta très entreprenant, hein. Tu me diras, c'est vrai qu'on n'avait pas vu grand chose d'assez flamboyant de leur part, parce que c'est vrai qu'on a vu sur les dernières rencontres, que ce soit contre Valence on a été chahuté, contre ouais. Leipzig on a été très chahuté déjà, donc on était sur une série où les victoires étaient un petit peu poussives, hein, depuis le match contre Gérone ouais. Où on gagne contre Séville, hein, sur la plus petite démarche, on a gagné contre Leipzig sur la plus petite démarche. Et quand tu restes sur deux matchs nuls comme ceux qu'on a vécu avec plus ou moins de frustration par rapport à l'arbitre en Liga ouais. Et par rapport, j'allais dire, à nos joueurs eux-mêmes
ouais.
Et le coach en Ligue des Champions, ça rassure. Ça rassure de voir ouais. Que cette équipe soit capable de montrer, on va dire, un visage meilleur. Et disons que là, quand tu regardes la composition… retour de Modric,
ouais, excellent,
qui a été excellent. Ovation, hein, pour ouais. Pour Luka Modric lors de cette rencontre, aux côtés de Valverde, Camavinga et Brahim Diaz, qui est à la place de Jude Bellingham.
Ouais.
Donc là, Kroos et Tchouaméni qui sont pas alignés, on les avait un petit peu signalé entre ouais. guillemets l'un et l'autre sur le match contre Leipzig.
Ouais.
Est-ce qu'ils avaient besoin de souffler selon toi
ouais.
Et surtout, ça a permis à des joueurs de pouvoir sortir bien, comme Camavinga et Modric. Mais on n'a pas vu un Brahim Diaz aussi étincelant que d'habitude.
Non, mais pour répondre à ta première question, il fallait qu'il se repose. On a senti l'équipe fatiguée. D'ailleurs, les dernières news qui étaient sorties dans la presse avaient fait
Ouais, l'écho
voilà, et...
de j'allais dire d'un état d'épuisement de l'équipe, hein.
Exactement. Exactement. Donc les joueurs qui étaient censés, alors je sais pas si ça a été vraiment fait ou pas, mais qui étaient censés repasser un test pour estimer le niveau de fatigue physique, le test avec les masques, tout ça. Je sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, si clairement le staff est au courant que l'équipe était à bout de souffle quelque part physiquement. Et comme tu le disais, le fait de faire tourner au milieu de terrain et notamment de laisser reposer le grand Toni, le grand Toni Kroos qui fait une excellente saison et Aurélien Tchouaméni qui est aussi très très bon, ça peut faire que du bien à l'effectif et on l'a vu contre le Celta Vigo. D'autant que tu les remplaces par des joueurs qui voilà qualitativement sont tout aussi bons, j'ai envie de dire. Très grand Luka Modric, ça fait longtemps, en tout cas c'est la première fois de la saison où je vois un Modric aussi flamboyant personnellement. Voilà, il a
Ah ouais.
quasi réussi tout ce qu'il faisait. Alors j'ai pas de statistiques sous les yeux,
Ah,
mais
moi je les ai.
ah
Je les ai
ouais,
si tu veux.
bon.
Je peux les
Donc
donner.
ouais,
Donc,
bah éclaire-nous de tes statistiques pour le coup.
des statistiques, mais je reprends, on va dire, les notes hein, de Guillaume Pomade pour le journal du
Ah oui.
Real, donc, que l'on salue avec Pablo également. Ben voilà, qui disait que les statistiques qu'il avait, c'est une passe décisive, c'est 8 passes clés, 6 centres réussis, 95% de passes réussies, et
Wow.
7 duels remportés sur 8 et 6 interceptions. Quand on voit quand il sort à la 88e minute, à la 83e minute, et qu'il est remplacé par Toni Kroos, l'ovation qu'il reçoit du Bernabéu, ben c'est grâce à des matchs comme ça que on se dit, ah, quand même Modric, je sais pas pourquoi il
C'est
veut,
fort.
il est fort, ah, pourquoi il veut pas rester l'année prochaine en jouant moins de minutes parce qu'on a toujours besoin d'un joueur comme ça sur le terrain.
Ouais. D'ailleurs, Carlo Ancelotti lui avait proposé d'avoir un rôle plus important, même dans son staff. Le joueur qui, d'après les dernières rumeurs, a refusé cette offre de Carlo.
Ah, mais il va encore jouer au
Mais
ballon, hein. Tu
voilà,
m'étonnes.
parce que voilà, lui, il estime qu'il peut encore jouer.
Mais regarde.
Et et en plus de ça, quand il fait des matchs comme celui qu'il a fait hier,
Tu m'étonnes.
on peut que lui donner raison. D'ailleurs, quand tu regardes finalement Modric, c'est vrai que c'est un peu injuste. Est-ce que c'est un peu injuste? Ouais, j'aurais dit que c'est un peu injuste parce que le gars, tu sens qu'il a encore de quoi donner, tu vois.
Ouais.
Il est pas out comme les gens le pensent, tu vois. Et Carlo Ancelotti l'avait dit en conférence de presse il y a quelques semaines. Tout le monde dit que Modric, il avait dit quelque chose comme ça. Tout le monde dit que Modric est vieux et bon à la casse, et il y a que Modric qui pense qu'il ne l'est pas. Et je pense que Carlo, il sait que Modric a encore beaucoup à donner sur le terrain, mais il a aussi la gestion des jeunes qui est devenue la priorité cette saison, en tout cas au milieu de terrain, pour faire tourner et en tout cas donner plus de temps de jeu à des Tchouaméni, à des Camavinga, pour qu'ils prennent voilà plus de responsabilités étant donné leur âge et donc ça se fait aux dépens de Luka Modric
Ah,
malheureusement.
oui, clairement. Et quand on voit par exemple la prestation de Camavinga devant la défense, hein, moi je suis un partisan de Camavinga à ce poste-là, dans ce registre-là,
C'est
et c'est
incroyable.
tout simplement exceptionnel, hein.
Éblouissant.
Bah, par exemple, là on parle de Luka Modric qui a eu 9 sur 10 pour le journal du Real, Eduardo Camavinga 8, Federico Valverde 7, et j'allais dire que quand on voit par exemple un milieu comme celui-ci qui brille, on n'a pas, on s'inquiète pas trop par rapport au Real Madrid, contrairement à ce qui s'est passé mercredi où en Ligue des Champions, on a vu que tous ces milieux n'arrivaient pas à se coordonner dans leurs attaques. Et paradoxalement, les deux premiers buts que l'on met, même si on domine la rencontre, c'est deux buts qu'on met sur coup de pied arrêté, hein.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez, j'ai envie de dire, impressionnant parce que dans ce secteur-là, ce Real Madrid n'est pas forcément, c'est pas sa qualité première. D'ailleurs, je pense que si on doit recruter en défense, Il va falloir recruter des joueurs qui sont capables d'apporter ou de combler cette lacune qu'a le Real Madrid. Et c'est de bon augure. Donc, bon, voilà. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est par rapport, si, mais justement, c'est un aspect du jeu que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est que quand on compare la rencontre qu'on a eue en Ligue des Champions avec celle qu'on a eue contre le Celta, c'est le jour et la nuit dans les transitions défensives. Ou en tout cas, j'ai trouvé que contre du coup Leipzig, on a eu vraiment un milieu de terrain qui était perméable. Voilà, c'est dans les passes, on n'arrivait pas à intercepter les transitions offensives de l'adversaire et on l'a, ça nous a fait peur à plusieurs reprises. D'ailleurs, heureusement qu'on s'en sort à 1-1 sur ce match-là. Moi,
Non, bien sûr.
je voyais le pire arriver. Mais voilà. Mais alors que, contrairement au Celta Vigo, le nombre d'interceptions qui ont lieu dans ces transitions offensives de l'adversaire, justement, et donc dans nos transitions défensives, la gestion qu'on a eue, c'était impeccable. Et on n'a pas laissé le Celta Vigo respirer. Et ça, c'était notable, notamment entre les deux, entre les deux matchs. Je voulais vraiment mettre un point d'honneur sur ça parce que
Bien
c'est
sûr.
une des grandes différences qu'il y a eu entre les deux matchs. D'autant plus que on avait, pour le match contre Leipzig, on sentait les joueurs épuisés physiquement, ce qu'on n'a pas eu contre le Celta. Donc, Carlo Ancelotti a bien fait de faire tourner l'effectif. Il en avait besoin.
Il en avait besoin, effectivement, et en plus, avec les suspensions de Carvajal et enfin Carvajal encore, je sais pas si oui, et de Jude Bellingham,
Bellingham, ouais.
c'était on va dire nécessaire. Brahim a été aligné. On a parlé de coup de arrêté, mention spéciale quand même à Antonio Rüdiger, hein, qui a provoqué
Incroyable.
les deux premiers buts
Ouais.
et qui a justement donc a été impérial dans le jeu aérien. Faut le saluer. Mais bon, il faut qu'on parle quand même de quelque chose qui va peut-être moins te faire plaisir, Chem. Hein, et justement, on voit, j'allais dire que celui qui cristallise, on va dire, la baisse de forme et de l'état d'épuisement physique de cette équipe, c'est en attaque. Autant Vinicius, on peut faire du jet ski avec lui, justement, donc on essaie de le tirer comme si c'est un. On faisait du ski nautique avec lui, on le provoque, on le bouscule, mais il marque toujours, il est décisif. Autant Rodrigo, j'allais dire, plus les semaines se suivent, elles se ressemblent, mais dans le mauvais, hein. Enfin, dans le mauvais, quand je dis dans le mauvais, il n'est pas efficace devant le but.
C'est dur pour lui. C'est dur pour lui, ça se voit sur le terrain. Il est vraiment, on l'évoquait la semaine dernière et je crois même la semaine d'avant encore. Son niveau est vraiment pas celui qu'il devrait être au Real Madrid. Et pourtant, il a du temps de jeu.
Ouais, beaucoup
Moi,
même.
je pense que énormément. Ouais. Et contrairement à Vinicius, et ils ont presque les mêmes statistiques. Ça, c'est Johan, je crois, qui disait par WhatsApp. Ils ont quasi les mêmes statistiques en termes de nombre de buts, si ce n'est que Vinicius même l'a dépassé, alors que Vinicius a quand même manqué un tiers de la saison avec toutes ses blessures. Donc non, pour Rodrigo, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est faible, c'est pas assez pour le Real Madrid. Et je pense que malheureusement, c'est un joueur que j'aime beaucoup et en qui je crois énormément. Mais pour le coup, je pense que un petit séjour sur le banc ne lui ferait pas trop de mal. D'autant plus que Joselu, lui, a de quoi taper à la porte de Ancelotti pour demander plus de temps de jeu.
Ah, clairement, parce que c'est vrai que si on disait à Rossellou d'être sur le terrain et qu'il avait, on va dire, ce bilan qui est famélique, parce que moi, ce que j'avais vu, c'est que on aura l'occasion de parler de Arda Güler tout à l'heure.
Ouais.
Rodrigo et Arda Güler, en termes de nombre de buts en Liga, je soupire, hein, c'est terrible là, ce qu'on est en train de dire, mais là, on se pose la question. Parce que tu t'imagines, Rossellou, un but en la saison,
Ouais, c'est
on
chaud.
allait le dégommer.
Ouais,
Et
ouais.
en plus, là, on est en train de voir aussi dans l'entourage de Rodrigo, oui, mais il joue pas à
Ouais.
son poste, il doit jouer à gauche. Là, il se sacrifie justement donc en jouant en pointe, parfois côté droit. C'est les mêmes discussions qu'on avait sous Zidane. On a vu même sur la première saison de Carlo Ancelotti, sur son poste préférentiel, et on continue encore de se reposer sur ça. Rodrigo, j'ai l'impression que, voilà, dès qu'il est dans le creux de la vague, il se justifie comme ça. Enfin, il se justifie. Son entourage se justifie comme ça.
Après, c'est vrai qu'ils ont, dans un sens, ils ont pas tort. Après, c'est sûr que dans la forme, on peut critiquer. C'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise à gauche. On le voyait quand Vinicius était blessé et qu'il était sur le côté gauche. C'est là où il marquait le plus de buts. On se rappelle à un moment, Rodrigo, je crois que c'était avant janvier ou dans les alentours de janvier.
Ouais.
Il était à un moment, peut-être décembre, quelque chose comme ça. Il était inarrêtable.
Ouais, jusqu'à la
vers la Super Coupe.
Quand on tape
Barcelone,
voilà, on gagne la Super Coupe et après.
Ouais. Et il était donc sur ce côté gauche. On sent qu'il est beaucoup plus à l'aise. Ça fait des années qu'on voit que le gars essaie de s'adapter à un poste à droite et qu'il n'y arrive pas. Il est limité à ce niveau, mais clairement, on peut pas dire que. C'est à cause de ça que son niveau est médiocre. Enfin, son entourage, c'est un peu excusez-moi du terme, hein, mais il se moque de qui quand il dit ça?
Qui se moque de qui, bien sûr?
C'est la réalité. T'as un joueur qui a des qualités, oui, c'est pas à gauche, mais t'es à droite, t'as du temps de jeu et t'arrives quand même pas à marquer. L'année dernière, tu voulais jouer un peu plus axial, et c'est ce qu'on te donne un peu plus, mais t'arrives toujours pas à marquer. Donc à un moment, je suis désolé, mais l'entourage lui fait une mauvaise pub en se plaignant de la sorte dans la presse. Ça n'arrange en aucun cas les affaires de Rodrigo, qui doit trouver une solution par lui-même pour retrouver le chemin défilé. Et j'en suis convaincu, il a les qualités pour être un grand joueur au Real Madrid. Et voilà, donc on verra comment ça se passe pour lui. Et comme on disait, peut-être la semaine dernière, il y a aussi l'ombre de Mbappé, peut-être qui plane au-dessus de Rodrigo. Ah. C'est fort à dire, mais je sais pas s'il est vraiment dans ces conditions-là. Mais qui sait? Parce que c'est des professionnels, Gilles, mais c'est des humains avant tout.
Oui, bien sûr, et ce sont des concurrents aussi. Quand on regarde l'animation du Real en attaque, parce que. Autant on dit que Rodrigo est à l'aise en partant de la gauche, mais il faut battre son compatriote numéro 7 du Real Madrid, qui justement lui, même quand il n'est pas bon dans une rencontre, c'était pas le cas. Attention, il était, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas en forme hier contre le Celta Vigo, mais voilà, Vinicius sous pression, il marque. Il marque même quand il subit des provocations en Ligue des Champions, même si il y a la polémique sur est-ce qu'il aurait dû être expulsé, pas expulsé. Il marque encore. Ouais, donc c'est là sur les deux, en 10 jours, c'est ça? Même pas en 8 jours, parce qu'entre le samedi de Valence et le dimanche de Celta, il a marqué 4 buts en 3 rencontres. C'est l'homme de la semaine. C'est on va dire l'homme qui justement, donc, assume son statut de numéro 7 au Real Madrid.
Et c'est là où tu vois que dans un club comme le Real Madrid, il te faut bien plus que du talent pour pouvoir réussir. Il te faut un mental d'acier, et c'est ce qu'est en train de démontrer le cas Vinicius et Rodrigo, si on prend bien évidemment que sur cette saison. Rodrigo, t'as du temps, t'as du temps de jeu, t'es talentueux. Malheureusement, dans cette force mentale, t'as l'impression que Rodrigo, il puise un peu plus. À l'instar de Vinicius, qui lui, tu vois que, comme tu le dis, sous pression et avec toutes les responsabilités et toute la lourdeur qu'est le numéro 7 au Real Madrid, arrive à prendre ses responsabilités. Alors, il n'est pas parfait, Vinicius. Ouais, il n'est pas parfait, mais en tout cas, il répond présent. Et ça, c'est notable entre les deux.
Oui, clairement, parce que là, il répond encore aux provocations. Je vais dire. Quand on voit par exemple le comportement des joueurs du Celta qui, franchement, sur l'action où il pète les plombs, Vinicius, on essaie de lui tirer le maillot à deux reprises de façon grotesque pour l'arrêter. Mais il y a ceux qui disent que c'est stupide, et ils ont raison d'une certaine manière, mais aussi les arbitres doivent comprendre que par exemple un joueur comme Manquillo, l'arrière droit là, du Celta, qui a joué à Marseille, très mauvais en plus. Ça, c'est gratuit. Mais il ne doit pas terminer la rencontre, Manquillo.
C'est fou, hein. Ouais, il a fait des fautes grossières tout le match et il s'en sort miraculeusement
Miraculeusement, avec
en
un carton
deux.
jaune qui arrive en fin de rencontre où il est en retard sur, je crois, sur Modric en plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Mais les fautes qu'il faisait, c'est chaud. Enfin, à un moment, il avait les deux pieds décollés par l'arrière et il vient tacler la cheville. C'est des risques de blessure. Il prend même pas jaune sur ce coup-là sur Vinicius en plus, il me semble. Donc,
Oui, non, mais son
c'est
Vinicius,
que font
c'est lui.
les arbitres. C'est ça que c'est les arbitres en Liga. C'est un gros sujet. On va pas en remettre le truc dessus, mais des Minguesa
Ah
qui tire le maillot comme
oui,
ça,
Minguessa,
c'est
mais un
pour
vrai
ranger.
voyou,
Enfin,
ce bandit-là.
ouais, non,
Ah, c'est
c'est
terrible.
absolument dingue. Sur le départ de l'action, je suis d'accord avec les commentateurs Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca qui disaient que normalement, le premier joueur qui essaie d'accrocher Vinicius, lui aussi devrait manger un jaune sur le coup. Et donc, derrière, tu as Vinicius qui réagit, oui, certes très mal, mais à un moment, que veux-tu faire? Enfin, avec un anti-jeu aussi grossier. Je crois que
Clairement.
même à Messi, on lui tirait pas comme ça le maillot. Tu vois ce que je veux dire? Là, il l'a traîné comme si
Ah
il
oui,
faisait
c'est
du jet ski
ouais,
ou
du jet ski ou
ski ski.
du ski nautique, course de
Ouais.
char, on se
C'est
connaît.
fou. C'est fou. Et ces gestes d'anti-jeu, à mon avis, ils sont pas assez sanctionnés par les arbitres. Ce qui permet aux joueurs de justement faire ce genre de gestes qui n'ont pas sa place, je suis désolé, sur un terrain de football.
Non, bien sûr, et c'est vrai que c'est ça qui ouvre à la réaction, hein, de Vinicius. Mais là, on se dit, là, on est au mois de mars. Heureusement qu'on est au mois de mars, mais quand on va arriver au mois de mai en demi-finale d'une Ligue des Champions, par exemple, ou dans des matchs de Classico qui vont avoir lieu fin avril, il va y avoir ce type de situation. Tu prends un carton jaune, tu peux être suspendu pour un match très important. J'allais dire dans cette phase cruciale, c'est aussi le moment de rester un petit peu plus calme. Parce que regarde, Ancelotti dit qu'il a jamais vu un joueur qui a été autant persécuté que Vinicius, sur le terrain comme en dehors. Je suis pas loin de penser comme lui
Ouais, c'est vrai.
quand je regarde la carrière du coach, mais il faut travailler avec lui pour qu'en fait il ne soit pas dans quelque chose qui lui soit préjudiciable et qui soit préjudiciable à l'équipe quand ça va commencer à devenir très très important les matchs.
Ouais, mais j'ai peut-être un mauvais ressenti par rapport à ça, Gilles. Je pense pas que Vinicius changera. Ça, c'est potentiellement problématique.
Ah, il a 23 ans, j'allais dire que là
Il a
il
23 ans, ouais,
ouais.
mais j'ai l'impression que c'est plus fort que lui. J'ai envie de dire, c'est inné. C'est un joueur qui se laisse pas faire et ça fait partie de sa personnalité d'avoir cette force mentale qui lui permet de se sortir de situations plus ou moins compliquées sur le terrain, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais ça peut être un défaut parce qu'effectivement, il est très volcanique et à mon avis, la direction du Real s'est peut-être fait une raison par rapport à Vinicius. Je fais écho à plusieurs rumeurs que j'ai vues passer ces derniers mois.
Ah, Dieu raconte.
Et voilà, bah typiquement, il est dit voilà les plus grands journalistes. Je sais pas si on peut dire les plus grands journalistes, en tout cas les plus informés sur le Real, que voilà la direction a conscience du problème Vinicius. Moi, je pense, vu les rumeurs qui circulent, que ça pourrait potentiellement dire que Vinicius pourrait partir un jour du Real Madrid, à moyen terme, peut-être, je dis pas à court terme, mais peut-être à moyen terme. Je vois personnellement un départ de Vinicius, vu le recrutement que va être celui de potentiellement Mbappé.
Ah d'accord, donc tu penses qu'il peut y avoir un lien et que le fameux joueur important dans l'effectif, eh ben ce sera lui qui partira et pas un autre. Moi je pensais plutôt que ce soit Rodrigo qui allait en payer les frais. Mais c'est vrai que Pablo nous le disait, c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est même le joueur qui dira qu'il en a marre
Exactement.
du contexte espagnol et qui voudra partir ailleurs. Mais
Pot -pot
il sera pas beaucoup mieux loti, par exemple, s'il signe en France. Hein. Je le
-pot.
rassure tout de suite. Hein. Si, il compte venir dans le championnat de France, dans quelconque club que ce soit, il va vraiment regretter sa mère. Ça, c'est autant être clair avec lui. Mais non, non, je pense que c'est un vrai sujet, sur lequel il faudrait être vigilant. Mais non, Hichem, consacrons, on va dire, une bonne partie de ce podcast-là à un joueur qui est rentré à la 88e minute de la rencontre, à un joueur qui a marqué son premier but lors de cette saison de Liga avec le Real Madrid. On parle d'Arda Güler,
Oh
Arda
là
Güler qui marque du droit en plus
là. Ouais.
sur l'action du 4-0. Je sens qu'il y a beaucoup de satisfaction dans la part du madridisme autour du but de ce joueur. Et ça nous donne l'occasion de pouvoir discuter un peu de lui, puisqu'il n'avait pas eu beaucoup de minutes pour s'exprimer. Et
C'est fort ce
pourtant,
qu'il a fait, Gino.
ah ben justement, exprime-toi, Hichem, dis-moi pourquoi c'est fort.
Mais c'est fort parce que c'est un joueur qui, comme tu le disais à l'instant, a très très peu de temps de jeu. Moi, j'expliquais ça là la semaine parce qu'en fait, pour moi, le Real ne se mettait jamais dans des conditions favorables qui lui permettaient voilà de faire tourner son effectif. En tout cas, sur les derniers matchs, on voyait que c'était souvent poussif. Pour obtenir soit les 3 points, soit ne pas perdre 3 points, ou en tout cas en gagner qu'un.
Ouais.
Et donc dans ces circonstances, il est difficile pour Carlo Ancelotti de faire rentrer ce joueur. Et je pense
Ouais.
que à juste titre, hein,
Clairement, ouais.
c'est que ça pourrait le mettre lui dans des conditions assez défavorables. Donc ça alimenterait un cercle vicieux où il pourrait voilà, être atteint moralement.
Ah
Et
oui.
en plus, à l'équipe, ça pourrait aussi desservir l'équipe et Ancelotti. Donc, clairement, Ancelotti a fait un bon choix, même si ça nous frustre tous, de ne pas accorder plus de temps que ça à Arda Güler.
Ben,
Maintenant, quand
clairement,
tu
ouais,
vois...
dis-moi.
Ouais, vas-y.
Non, juste avant que je te laisse reprendre la parole, c'est vrai
Ouais.
que la dernière fois qu'on l'avait vu contre Girona, où il avait provoqué un penalty que Rossello a raté, il n'a pas beaucoup joué, hein, il avait joué à peine quelques minutes contre le Rayo
Exact.
à l'extérieur parce qu'il fallait faire tourner quand même après le match de Ligue des Champions un petit peu. Il n'a pas joué énormément, mais quand on regarde les matchs qui étaient un petit peu à l'arrache contre Séville, contre Valence, contre Leipzig, c'est compliqué de pouvoir le faire jouer. Et en fait, de ce que je comprends, c'est que en gros, Ancelotti veut le faire jouer alors qu'il y a de la marge au
Exactement.
score. Et en fait, le Real Madrid ne s'est a très rarement trouvé depuis le 10 février une marge suffisamment importante pour que Arda Güler puisse jouer. Et encore, là, il y a eu 4-0. J'allais dire que les buts sont arrivés tard, hein, quand même, sur
Ah,
le troisième et le
effectivement.
quatrième, hein.
Ouais, bah, d'où le fait qu'il le fasse rentrer du coup à la 88e, c'est ce que tu disais.
C'est ça, tout à fait.
Donc voilà, mais une fois que tu mènes au score, que tu es assuré d'avoir 3 points, que tu sais que tu vas faire rentrer le joueur dans des conditions quand même qui lui permettent, même s'il prend un risque et que ça se rate, que ça soit pas catastrophique, eh ben tu peux te permettre de le faire rentrer. Et là, c'est ce qu'il a fait, Carlo. Et il a eu un coaching qui, pour moi, est excellent avec Arda Güler. Arda qui, derrière, avec Ceballos, qui lui aussi est en manque de
Ah
temps de
oui,
jeu, et
bien
c'est
sûr.
difficile pour Ceballos, mais qui distille une passe somptueuse qui
Incroyable,
permet
ouais,
à Arda
superbe.
Güler de crocheter le gardien côté droit, qui nous rappelle un des premiers buts de Ozil. Je ne sais pas si tu l'avais vu
Si, je l'ai
passer sur les
vu.
réseaux, ça.
Je l'ai vu. Je me souviens même du match
Ouais.
qu'il avait joué ce jour-là. Et je me suis dit, ah tiens, Özil qui marque du droit. Ça, c'était à l'époque. Avec son numéro 23.
Mais la coïncidence est quand même assez troublante pour le coup. Et voilà, Arda Güler qui marque ce but, qui le libère, qui libère aussi l'équipe. On a vu les joueurs qui l'affection qu'il a reçue de la part des joueurs. Les joueurs attendaient que Güler marque. On voyait ce qu'il pouvait faire à l'entraînement, rien qu'en début de semaine dernière. Il y avait une vidéo qui circulait, milieu de semaine, excuse-moi, qui circulait de lui où il mettait un double contact à Ceballos, où il projetait toute la défense madrilène. Bon, ça reste à l'entraînement, tu vas me dire. Mm-hmm. Mais quand même, pour faire ça à l'entraînement, c'est que tu as quelque chose quand même. Tu vois, t'es pas.
Ah oui, bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire.
Après Zidane,
on en a vu des joueurs comme ça.
Attention. Après Zidane, paraît-il que on demandera à Carlo Ancelotti, mais paraît que Zidane était encore plus fort à l'entraînement que ce qu'on a vu en match. Qu'il y avait un décalage entre ce que nous on a vu de Zidane quand il était sur le terrain et ce qu'il montrait à l'entraînement. Et c'est vrai que quand moi j'ai quelques petites revues où je vois des interviews de Zidane, il y a des gestes techniques que je lis qu'il tentait à l'entraînement. Qu'il a jamais tenté en match, tu te dis, ouf, si ça passe en match, ça, oh là là. Et donc là, c'est vrai que entre ce qu'on peut voir à l'entraînement, mais après, derrière, il y a des joueurs aussi, Hichem, où quand ils sont à l'entraînement, on sent qu'ils sont prêts. Par exemple, et en plus, Carlo Ancelotti, il en a connu des joueurs comme ça qui sont des phénomènes, comme. Parce que c'est pas la première fois qu'il lance des jeunes. Regarde, je pense que toi, c'est peut-être un souvenir lointain, quand il était à l'AC Milan, Alexandre Pato, par exemple, qui lui, donc, a été aligné avec l'AC Milan. Mm. Quand il est arrivé, il avait quoi, 17 ans, un truc comme ça. Donc, tout jeune comme Arda Güler, il l'a mis sur le terrain pour jouer avec le grand R9 quand il était au Milan. Ouais. Donc, du coup, c'est ça qui me fait poser question. Je me dis, mais Güler, oui, mais pourquoi Güler, on peut pas lui faire confiance pour pouvoir jouer dans des matchs qui sont assez cruciaux s'il a le talent? Est-ce qu'il est suffisamment prêt pour le Real Madrid? Est-ce que c'est le Real Madrid est arrivé trop tôt dans sa carrière? Est-ce que quand on entend des gens qui parlent de prêts éventuels pour la saison prochaine, et même il y a des mecs comme moi qui disent oui, mais attends, mais on a acheté Güler, mais pourquoi, quand je regarde ce que fait Kubo, est-ce que Kubo ne peut pas faire la même chose? Tu vois, c'est, y a plein de choses qui cristallisent, on va dire, son cas à lui, alors qu'on voit qu'il a vraiment le talent d'un joyau.
Mais moi, je pense que c'est un peu tout de ce que tu es en train de dire, Gilles, mais je pense que c'est surtout la gestion de Carlo Ancelotti pour le coup. Ouais. J'aime bien revenir. À sa saison 2014-2015 où il fait malheureusement une saison blanche avec le Real Madrid. Cette saison-là, Carlo a pris des risques en faisant rentrer certains joueurs auxquels en fait il a accordé la confiance et on lui a pas rendu sur le terrain.
Qui
je pense James, typiquement, qui a fait malgré qu'il ait fait une bonne saison 2014-2015 globalement avec des buts sensationnels. On s'en rappelle tous.
C'est vrai que James avait été, ça a été une belle saison. Je pense que même Carlo Ancelotti mettait James vraiment au centre de son projet, comme là c'est le cas avec Jude Bellingham. Mm. Tu penses à qui d'autre qui lui a rendu la confiance?
Isco, qui n'était pas non plus dans un grand jour quand il était sous Carlo Ancelotti. Il y a eu des joueurs comme ça que Carlo a essayé de lancer et qui, malheureusement, en fait, n'ont pas donné satisfaction. Et c'est là où Carlo Ancelotti, on sent qu'il y a une différence entre les deux hommes que sont en fait Carlo Ancelotti depuis 2014 jusqu'à 2015 et après ça. Donc depuis qu'il a repris les rênes du Real Madrid, c'est deux gestions qui sont différentes. C'est une gestion qui est beaucoup plus mature entre guillemets, qui est empris de moins de risques finalement dans les choix qu'il fait, parce que il met d'abord et avant tout non pas l'envie du joueur de vouloir démontrer quelque chose, mais d'abord le résultat. Il veut d'abord des résultats et la gestion d'Arda Güler, ça le montre très très bien. C'est un des signes de ce changement en fait de philosophie. En tout cas, de coaching qu'a eu Ancelotti, en tout cas entre son premier passage au Real Madrid et le deuxième qu'il est en train de réaliser. Donc moi, je serre les dents comme tout le monde, comme tous les fans. On avait tous envie de voir Güler beaucoup plus, beaucoup plus longtemps sur le terrain, mais la priorité à la victoire. Et là, je donne raison à Carlo Ancelotti pour le coup.
Hichem, je pense qu'il y avait pas mal de choses qui ont été dites et. Il y a un match contre Osasuna qui nous attend semaine prochaine, qui est pour moi le match le plus important de la saison, étant donné que ce sera le dernier match avant la trêve internationale. Et quand il y aura la trêve internationale, je pense que si l'avance est toujours maintenue, il y aura de très grandes chances qu'on puisse aller au bout du titre. Donc il ne faut pas perdre de points. Et c'est ça qui va être le plus important lors des prochaines échéances
Il
à
reste très
venir.
peu de matchs, hein.
Il reste très peu de matchs. Là, il en reste 10, hein. 7 points d'avance.
Waouh.
C'est vrai que là, il faut vraiment capitaliser avant le sprint final parce que, justement, donc Pâques arrive, entre guillemets, la Ligue des Champions également avec les quarts de finale qui vont arriver donc dans la première semaine d'avril. Ah, là, ça va être vraiment le sprint final effréné et on aura l'occasion la semaine prochaine de revenir dessus et de faire l'état des lieux avant justement donc ce sprint final qui va commencer au mois d'avril. Mais Hichem, merci beaucoup, hein, fidèle au poste.
Ouais, comme d'hab.
Comme d'habitude, et voilà, donc là sur ce tête-à-tête inédit, mais c'est pas plus mal quand même, hein.
Ouais,
Un
on
moins
était tranquille. On n'a pas eu, tu vois, des trucs polémiques.
de polémique, pas de brouhaha, mais c'est
Non, on aime
bien.
bien un peu, tu vois, dans l'esprit
Ouais.
madridista, un peu polémiquer. Là, on va dire qu'on était sur quelque chose d'assez calme.
Ah oui, non, c'est bien, mais c'est pas plus mal.
C'est pas plus mal.
Impeccable. Mais voilà, donc, j'allais dire, d'ici le match contre Osasuna, portez-vous bien. Et comme d'habitude, Hichem, à la Madrid.
À la Madrid.